Mesdames et messieurs, bonsoir. Tribune de presse, un rendez-vous des débats radiophoniques des journalistes sur la radio de la paix, Okapi. Au micro, Freddy Bikumbi Ignace. Au menu, le lundi dernier, les confessions religieuses ici à Kinshasa ont rendu public le plan du processus national et inclusif de paix en République démocratique du Congo. Avec cette feuille de route, l'objectif est de trouver solution au conflit armé à l'est du pays, ainsi contribuer au rétablissement de la paix et la concorde nationale, soutenant la marche démocratique déjà amorcée au pays. Les dialogues politiques, est-il encore possible de l'organiser sans l'aval du régime en place? Aussi, les invités vont débattre sur le procès du détournement de fonds publics dont l'ex-ministre d'État Constant Mutamba serait l'auteur. La Cour de cassation a renvoyé le prononcé tant entendu le mercredi au lundi 1er septembre pour raison d'organisation. Comment est-ce que les journalistes ont analysé cette démarche de la Cour de cassation? Nous en parlons avec M. Alain Botoko, journaliste basé à Kinshasa et PDG de plusieurs médias en ligne. Bonsoir.
Bonsoir Freddy, bonsoir à tout le monde.
Monsieur Bernard Padikouba, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères, et bonsoir à tous les co-débatteurs.
Vous êtes journaliste au studio Tiondo Tiaï Kassai et rapporteur au sein du collectif de journalistes engagés pour l'émergence de la presse à Kananga. Monsieur Martin Ekama, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Freddy.
Vous êtes journaliste et rédacteur en chef du média en ligne Wise.cd, basé ici à Kinshasa.
Justement.
Fidèles auditeurs de partout où vous nous suivez, que ce soit à Mabolio et à Beou Mupanda, c'est à Beni. Bienvenue. Jean-Claude Nsiala et Alain Bidaya sont à la mise en onde. Ouvrons ces débats avec vos commentaires libres ou analyses de l'actualité ou même une information qui vous a touché cette semaine. Martin Ekama.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole en premier. Alors, vous savez très bien que cette semaine a été brûlante, brûlante parce qu'il y a eu deux événements majeurs. Je déplore juste la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Vous savez, de plus en plus, les hors-la-loi font la loi. Permettez-moi de le dire ainsi, parce que précisément dans ma commune, la commune de Lemba, il y a eu hier, à partir de 13h, au terrain, je l'ai précisément, un conglomérat des personnes qui, d'après certaines indiscrétions, se sont emparées d'une maison. Ils ont barricadé les routes, empêcher même les policiers à faire leur travail. Et c'est ce que moi je déplore. Je déplore parce que c'est un événement qui attriste même la population. Et je m'arrête à ce point que l'État fasse son travail, remplisse son devoir régalien afin de protéger la population.
Kinshasa est tellement compliqué. Monsieur Bernard Padikouba, quel est votre commentaire à une information ou actualité?
L'actualité au Kassai central reste dominée par la poursuite de la pose de la première couche sur la route de Kalambambouji, une route longue de 230 km qui relie la ville de Kananga à la province sœur de Lunda Norte en Angola, une route de spoir. Il y a également la poursuite des travaux d'assainissement sur cette route importante pour la vie de la province du Kassai central. L'autre actualité, c'est la poursuite des travaux de construction de Chitkatende. Les travaux étaient relancés à Kinshasa, mais là déjà les entreprises sont déjà sur terrain en train de procéder aux travaux proprement dit. Et là, il y a la présence de trois entreprises, une qui s'occupe de la ligne de construction, l'autre qui est en train d'ériger le barrage et une troisième qui s'occupe de la voie d'accès. C'est la plus grosse actu ici, parce que vous savez que Kananga, Kassai Central n'a pas les courants. Nous attendons tous le courant qui sera lancé à partir de cette centrale de Katende. Et ça va énormément faire plaisir à la population du Kassai Central. Dois-je les rappeler ici que c'est l'une des promesses du chef de l'État lors de son récent séjour au Kasaï central, il avait pris un engagement ferme de pouvoir doter à la province du Kasaï central des 7 centrales, y compris la route de Kalambambouji. Voilà la plus grosse actu de manière générale qui domine ici au Kasaï central à Kananga.
Alain Motoko.
Oui Freddy, je partage avec les auditeurs cet article que j'ai... qui sont en train d'écrire et qui va paraître le début de la semaine. L'article concerne effectivement les impacts environnementaux sur le port en eau profonde de Banana. Et là, j'interpelle les autorités qui a c'est un écosystème particulier. Il y a le mangrove, mais aussi beaucoup, une biodiversité extraordinaire qui est là-bas, les tortues qui peuvent peser jusqu'à 80 kg. Alors que dans les habitudes, les trottis sont à moins de 5 kg, moins de 3 kg ici à Kinshasa et tout l'Est et l'Ouest, et en fait le centre du pays. Et il y a aussi des lamantins qu'il faut protéger, il y a aussi des oiseaux migrateurs qui viennent dans cet écosystème, mais surtout les populations qui sont là-bas et qui seront déplacées. Il faut que l'État prenne en charge ces populations et qu'elles soient indemnisées et qu'elles vivent comme il se doit. Parce que c'est dans l'environnement, dans cet environnement-là, qu'ils ont appris à créer des richesses, à se nourrir, à nourrir leur famille. Il faut y penser. Et ça, je travaille avec plusieurs communautés comme ça, là où il y a de grands travaux, là où il y a des mines, là où il y a des investissements, des industries, pour alerter effectivement l'opinion nationale et internationale qu'aujourd'hui, quand on fait des actions sur l'environnement, il faut penser aux actions sociales sur ceux qui vivent dans cet environnement. Et c'est pour ça que j'ai initié avec mon équipe le magazine Info Verte, qui ne parle que de ces questions et qui défend bien sûr la biodiversité, mais aussi la gestion des écosystèmes de nos forêts, de nos eaux. Et là, effectivement, je déplore un peu parce que c'est un magazine qui est sponsorisé. Mais ici au Congo, personne ne veut faire ça, sauf certains étrangers qui le font de temps en temps. Et nous avons à arrêter pour un moment parce que l'enregistrement de ce magazine coûte énormément d'argent, mais aussi pour faire fonctionner ça. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que les gens vont mourir avec leurs millions d'argent alors que nous sommes à l'ère du dérèglement climatique où il faut signaler aux populations minute après minute sur ces effets-là, où il faut investir pour que...
Autour de l'environnement.
Voilà, merci beaucoup.
Merci pour vos commentaires. Premier sujet, les confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont présenté un plan détaillé pour un processus national et inclusif de paix. Cette feuille de route élaborée avec le cabinet du chef de l'État a pour but de mettre fin aux conflits armés récurrents en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu. L'objectif principal est de rétablir la paix, la cohésion nationale et de consolider les systèmes démocratiques. Le plan se divise en quatre étapes clés, incluant des dialogues entre experts, des discussions politiques et une future conférence internationale sur la paix dans la région des Grands Lacs. C'est le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, le révérend Eric Senga de l'ECC, qui a dévoilé cette feuille de route de ces dialogues. C'était le lundi 25 août ici à Kinshasa. Alors, découvrons les contenus de cette feuille de route dans ses condensés signés Lievin Mbuinga.
Dans ce communiqué, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, la plateforme des confessions religieuses au Congo, ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation, se disent préoccupés par la gravité persistante du cycle récurrent des conflits armés ayant ravagé la République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. Elle déplore vivement la résurgence d'un nouveau conflit armé impliquant l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, s'ajoutant de nombreux groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. reconnaissant l'ultime nécessité de réunir les fils et les filles du pays dans le cadre d'un dialogue national et inclusif en vue de trouver des solutions à la crise et consciente de leurs responsabilités morales et spirituelles, prenant aussi en compte tous les efforts menés au niveau de l'Union africaine et au niveau international, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'accord bilatéral signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que la déclaration des principes signée à Doha. Les confessions religieuses proposent une feuille de route en quatre étapes. Le mois de la paix pour un climat de confiance mutuelle et de décrispation politique. Deuxièmement, le dialogue des experts afin que les intelligences et les expériences professionnelles congolaises soient revalorisées et mobilisées pour les feuilles de route pratiques. Le dialogue politique qui a deux actes. Un, obtenir le consensus des acteurs politiques et des forces vives de la nation autour de différentes feuilles de route. Et le second axe concerne la tenue des assises politiques.
C'était Lienvin Mwinga pour nous dans ces débats. Mais comment trouvez-vous cette démarche des confessions religieuses, Alain Botoko?
Ils sont citoyens de ce pays et ils ont le droit de faire ce qu'ils peuvent. Proposer ce qu'ils peuvent. Mais j'ai une préoccupation. La préoccupation est celle-ci, est que le pays est géré par le gouvernement. Et le gouvernement n'est pas le seul acteur dans la gestion du pays. Il y a la société civile dont les religieux font partie, mais aussi les privés, les gens qui font des affaires, les gens qui font que l'économie marche au pays. Et tous ces acteurs-là, tous ces trois acteurs clés de la vie nationale sont très utiles dans la société. Moi, je pense, ça c'est mon humble avis, je pense que nous avons failli tous les acteurs de la société congolaise. Commençant par nos pères spirituels, qu'est-ce qu'ils proposent à la nation? Vous pensez qu'un pays où il y a plus de 80% de chrétiens, et qu'il y ait la crasse partout comme on vit, et qu'il y ait des guerres à tout moment, qu'il y ait des désordres, des pillages, une gestion chaotique, une gouvernance qui ne dit pas son nom. Et moi je pense que c'est une grande responsabilité pour les pères spirituels pour se réexaminer, pour se dire, est-ce que nous faisons bien notre travail? Est-ce que nous encadrons bien les fidèles? Est-ce que parce que tous ceux qui sont dirigeants dans nos pays, ils sont soit catholiques, ils sont soit musulmans, ils sont soit protestants. Et alors, quel est le comportement que nous affichons? Et l'ensemble des communautés, l'ensemble de la population congolaise, qu'est-ce qu'elle reçoit de ces hommes et ces femmes comme exemple à suivre dans la suite? Parce que nous voyons autour d'eux, il y a des querelles, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Tout à l'heure, là, quand ils sont sortis, un autre groupe a commencé à faire déjà des déclarations pour se dire qu'il n'est pas content de la marche de choses. Alors, moi, je crois que si chaque parti...
Et le problème se situe où? Au niveau de la population ou au niveau des politiciens?
Le problème, il est vraiment, d'une manière générale, de la gouvernance. La gouvernance est un problème dans toutes les parties prenantes en RDC. La société civile ne fait pas son travail comme ailleurs. Et les religieux ne font pas aussi leur travail. Je vous donne un petit exemple. Au Nigeria, j'étais en 2013-2014, il y a un monsieur qui s'appelle Oyedepo et qui a une grande église avec sa concession qui s'appelle Canaan Land. Et le président à l'époque, c'était Luke Jonah qui était président à cette époque. Il avait besoin de payer les policiers et les militaires. Et il est parti chez Oyedepo pour lui dire, j'ai besoin d'un mois pour le payer. Et Oyedepo lui a donné des mois pour qu'il le paye. Donc il a la carte pour décider sur ce qui se passe au pays, parce qu'il a le moyen et on le respecte. Moi je me pose la question, est-ce que nos religieux ont-ils des cartes entre leurs mains où ils seront malmenés? J'étais témoin du dialogue qui s'est passé à la CENCO. Et ce dialogue-là, on a passé trop de temps. Et là, je disais, est-ce que Kabila va accepter toutes les résolutions? En réalité, il n'a pas accepté. Parce que au sorti de ce dialogue-là, c'était que Tshisekedi de le père prenne le truc qui collait dans quoi il dirige aujourd'hui. Et lui, qui avait un grand parti politique, pouvait maîtriser la gestion et aussi la primature. Mais jamais on lui a donné ça. Moi, je crois que si chaque acteur et la société civile fait son travail comme il se doit ailleurs, je vais vous donner un autre exemple au Ghana. Ce sont les communautés qui gèrent les mines. C'est pas l'État, ce n'est pas le privé. Ce sont les communautés qui décident sur la gestion de leurs mines. Mais alors, pourquoi on est arrivé là? Parce que la société civile est forte, elle est organisée et elle organise les communautés. Et donc, si on arrive à organiser les populations, canaliser leurs besoins, moi, je crois que les politiques ne pourront que se soumettre. Parce que regarde ce qui se passe, par exemple, parce que nous sommes en train de coopérer avec les États-Unis. Regarde ce qui se passe là-bas. Une bonne famille ne veut pas envoyer son enfant faire la politique. Parce que pour eux, c'est du passe-temps, c'est pas des bons métiers, c'est pour la souffrance. Mais si vous voulez des bons citoyens, c'est ceux qui font les affaires, c'est ceux qui font. Alors moi, je pense que si on en arrive là-bas, j'ai parlé de l'exemple du pays de la Scandinavie. Et si on en arrive à ce niveau-là, je pense que tout le monde fera ce qu'il faut et le pays là, ira de l'avant. Moi, je ne crois pas au dialogue de type organisé par un groupe d'hommes, un groupe de femmes.
Et partager le pouvoir.
Non, moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça.
Bernard Padikouba, comment est-ce que vous trouvez cette démarche de l'ECC, de l'Église catholique et d'autres confessions religieuses sur la tenue d'une conférence internationale pour la paix au pays, pour un dialogue, pour des discussions entre experts?
Eh bien, d'emblée, je dois rappeler que l'Église a une mission qui lui est confiée par la religion, quoi, parce que l'Église, la première de mission, c'est d'évangéliser, gagner les âmes pour Christ. Mais l'Église congolaise est de plein pied dans la politique. Il y a un fourre-tout, il y a des confusions. On ne sait exactement différencier les missions qui sont le leur et les missions pour lesquelles ils sont en train de mener toutes ces démarches. Moi, je pense que le dialogue n'est pas opportun pour le moment. Ce que l'Église religieuse devrait faire, c'est de commencer d'abord par intercéder pour la nation. Le pays est agressé il y a plusieurs mois. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas forcément de dialoguer parce qu'on connaît les dessous de cette feuille de route. Dialoguer pour quelle finalité? Pour que ceux qui se sentent lésés, ceux qui ne se sont pas retrouvés dans la gouvernance, puissent aussi avoir une mainmise et gagner quelques billets de banque. C'est tout ce qu'ils cherchent. Et aussi participer à la gestion du pays. Or, nous Congolais, ce que nous attendons actuellement, c'est qu'il y ait la paix. Parce que déjà, il y a eu la signature de l'accord de paix entre les gouvernements congolais et rwandais aux États-Unis d'Amérique. Et il y a eu également la déclaration des principes qui a suivi à Doha. Est-ce qu'il faut réellement reprendre les dialogues en ce moment? Je pense que l'occasion n'est pas offerte pour que l'Église catholique, les confessions religieuses nous conduisent à des dialogues. Ce qu'il faut faire, c'est que l'Église, de manière générale, les confessions religieuses devraient d'abord commencer par jouer leur mission, leur rôle de pacifier d'une manière spirituelle, implorer la grâce divine pour qu'il y ait cessation des conflits. Parce qu'en ce moment, nous Congolais, nous nous attendons à ce que le gouvernement congolais puisse déclarer officiellement la guerre contre le Rwanda. Parce qu'il semble que toutes les déclarations qui ont été signées au niveau international, le Rwanda est en train de bafouer. Le Rwanda ne sait pas clairement respecter ses engagements pris pour le retour de la paix. Et pourquoi l'Église catholique, les Congolais qui sont épris de justice et de paix, doivent perdre leur temps pour entamer une démarche selon laquelle il faut qu'on dialogue? On va dialoguer avec qui? Avec ceux qui nous ont tués, avec des Congolais qui ont participé au meurtre de nos concitoyens? Moi, je pense que... Et puis, quand ils prévoient quatre étapes, selon ce que je venais de suivre tout à l'heure, prévoir un dialogue entre experts. Qui sont ces experts-là? Est-ce qu'on les a déjà identifiés? Quel est leur profil? Et avoir des discussions politiques. Pour quelle finalité? Je pense que l'Église est allée à côté de la plaque. Ce n'est pas le moment pour convoquer les dialogues parce que nous, ce qui nous préoccupe actuellement, c'est qu'il y ait un retour de la paix. Nos populations sont en train de mourir à l'est du pays. Il y a des guerres, c'est vrai, on a déclaré un cessez-le-feu. Mais vous attendez toujours, il y a des bombardements, il y a des armes qui sont en train de détonner de ces côtés-là. est-ce qu'il faut passer au dialogue?
Bernard, donc vous n'êtes pas pour qu'il y ait des assises encore, des échanges, des discussions politiques au pays? Pourquoi?
Des dialogues, on en a eu dans ces pays de tout genre. On va parler de la conférence, on va parler des dialogues, de processus. On en a eu, mais pour quelle finalité? La finalité, c'est que tous ces gens-là se retrouvent autour d'une table, qu'ils se partagent les gâteaux. Et pourtant, on n'est pas les moments pour se partager les gâteaux. On devrait en principe unir nos forces pour soutenir les forces armées congolaises qui se battent pour le retour de la paix.
Bernard, on va vous redonner la parole. Écoutons d'abord Martin et Kama. Comment est-ce que vous trouvez cette démarche des confessions religieuses en RDC?
Merci beaucoup, Freddy. J'aimerais vous dire que depuis des lustres, on ne peut jamais dissocier l'Église et la politique. C'est depuis l'Antiquité, et je parle plus précisément de l'Église catholique. Alors, les responsables religieux sont considérés comme des leaders d'opinion. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce que, on sous-entend que dans des églises, peu importe des religions ou de confessions, il y a des fidèles. Alors, les leaders religieux, censés d'apprivoiser la colère de la population ou des fidèles, sont aussi capables d'influencer l'action politique. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est là où on parle de la crise, de la décrispation politique. Vous voyez, dans notre pays, nous savons qu'il y a, ce n'est pas quelque chose qu'on va le dire souvent, mais ça fait plus de 3 décennies que le pays est en guerre, et nous le savons très bien. Alors, le rôle que doit jouer les religieux ou l'Église, c'est de pouvoir chercher des mécanismes à ramener la paix dans notre pays. Alors, si les politiques ne peuvent le faire, je pense que les religieux peuvent le faire de manière indirecte, parce que la religion ou l'Église ne prend pas directement les décisions politiques.
Si vous dites qu'il y a 3 décennies, donc l'Église, les confessions religieuses ont échoué leur processus?
Non, en fait, ici, le problème, ce n'est pas l'Église en soi, c'est l'action. Qu'est-ce que l'Église a proposé cette fois-ci pour ramener la paix, le recouvrement total, inclusif de la paix dans notre pays? Est-ce que cette feuille de route, nous savons qu'il y a quelques mois passés, il y a quelques années passées, il y avait même une fissure entre ces responsables religieux. Mais aujourd'hui, ils se sont mis d'accord pour dire oui, donner une voie, une issue de sortie pour ramener la paix dans notre pays. Et alors, leur démarche doit être sollicitée, doit être appréciée par les politiques qui sont les décideurs de notre pays, qui, à leur tour, devraient, parce que là, dans un article lu sur Radio Capi, justement, on dit que le cabinet du chef de l'État a travaillé conjointement avec les responsables religieux. Vous voyez que c'est de même de la volonté du pouvoir en place à pouvoir travailler avec les religieux afin de ramener la paix. Si cette voie est considérée comme favorable pour un retour total à la paix, alors moi je suis totalement d'accord. Mais le problème, c'est au niveau maintenant de la conception de cette démarche. Parce que dans notre pays, on doit encore le dire, la religion, oui, la politique, oui.
Mais quel est le problème à résoudre par le dialogue? C'est ça aussi le flou que les Congolais ne comprennent pas. Quel est le problème?
Le problème à résoudre, vous voyez, il y a toujours des frustrés. Surtout du côté politique, il y a toujours des frustrés, nous savons.
Sur quoi?
Il y a toujours des frustrés. Ceux-là qui ne sont pas satisfaits d'une manière ou d'une autre prennent maintenant les armes.
De quoi?
Parce que, en sous-entend, il y a une mégestion. On sous-entend qu'il y a une mégestion. Alors,
est-ce les Congolais ordinaires les saints?
Je crois, je l'évoque petit à petit, qu'on ne dissocie pas l'Église et la politique. Mais l'Église est censée jouer un rôle crucial pour ramener la paix, influencer même les décisions politiques de manière indirecte, dans le fait que les politiques prennent maintenant les décisions qui vont mettre à l'aise la population en général. Parce que la population, elle, ne se retrouve presque pas. Alors, puisque on sous-entend qu'il y a une oppression, les populations sont opprimées, ne peuvent s'exprimer. Alors, ceux-là qui peuvent parler à leur place, ils sont des responsables religieux. Parce que notre population, il y a beaucoup de fidèles dans différentes religions, dans différentes confessions. Alors, leur voix sera entendue de par ce dialogue. Proposer un dialogue aujourd'hui pour ramener la paix, c'est une bonne chose, même si mon confrère de Kananga, on vient de parler, il y a eu des dialogues, c'est pas
Bernard Badikouba.
pas dit Kouba vient de dire que le dialogue...
Il n'est pas pour le dialogue.
Il n'est pas pour le dialogue.
Alors, et même Alain Botoko, je pense.
Moi, je suis...
Et j'ai des éléments pour ça.
Moi, je suis pour le dialogue, si cela est une issue qui va nous amener à une paix véritable et totale. Et moi, je ne peux qu'approuver la démarche des confessions religieuses.
Alors, moi, vous êtes des journalistes. Je vous amène à un niveau où nous voulons avoir votre point de vue. Je prends ces cas du dialogue et ça sera une voie de paix. Si on prend les cas de Joseph Kabila dans un procès où il sera jugé par contumace, accusé des crimes de guerre, de haute trahison et d'organisation des mouvements insurrectionnels. En plus de la peine capitale, le ministère public, dans sa proposition des peines, a demandé à la haute cour militaire d'ordonner même son arrestation immédiate. Et donc, comment est-ce qu'on peut décrisper cette situation politique que le peuple congolais n'arrive pas à comprendre? La crise se fonde sur quoi? Alain Botoko.
Oui, Freddy, je voulais éclairer un peu l'opinion à cette question pertinente. Vous savez, la justice, c'est le mécanisme par lequel le conflit socio-démocratique se règle. Et souvent, c'est par la voie pacifique.
En condamnant un ancien président, on va régler le problème.
Freddy, ça vaut la peine. Et ça, ça montre déjà que le gouvernement en place ne veut pas tuer, ne veut pas casser, il passe par la voie pacifique. Et il faut que tout le monde applaudisse ça.
La justice?
Il faut une justice qui fait son travail et qui fait son travail comme il se doit. Et je vais ajouter à cet élément-là la déclaration que Matata a fait en Guinée.
Matata qui?
Matata Pognon. Il fait en Guinée cette déclaration. Je ne vais pas me soustraire de la justice. Malheureusement pour lui, il est condamné et il a fui. Il faut punir les personnes qui ont permis que ce monsieur fuit au lieu de restituer l'argent qu'il a pris et de purger sa peine ici au pays.
Nous cherchons la paix.
Je veux vous dire une chose. Et Kabila, s'il était un bon citoyen, s'il respectait les institutions du pays et s'il avait vraiment réussi à les élections, il aurait pu envoyer ses avocats, il aurait pu envoyer ses gens ici pour le représenter et pour défendre cette cause. Parce qu'il est accusé des choses quand même graves. L'espionnage, la prise des armes, le soutien aux hommes et des femmes qui pillent, qui volent le pays, soutien à l'armée étrangère, c'est quand même des choses graves.
Les confessions religieuses cherchent en tout cas à consolider la paix. Et vous utilisez la justice.
Chers frères, s'il n'y a pas une justice, il n'y aurait pas la paix. La Bible dit, les confessions, au moins qu'ils utilisent autre livre que la Bible. La Bible dit que la justice seule élève une nation. Si on continue à torpiller la justice, nous allons continuer à tourner en rond. Mais les problèmes qu'il faut résoudre, ce sont les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes de sécurité. Cela, le gouvernement en place peut faire un effort pour faire ce travail-là et résoudre. Mettre la propriété dans la ville de Kinshasa, ça demande qu'il y ait des dialogues, arranger les routes dans la ville de Kinshasa, qu'il n'y ait pas d'embouteillage, que les gens ne meurent pas dans
on
les
villes. On parle de la crise politique.
Mais non, la crise politique, elle est générale, elle concerne tout le compartiment de la vie.
Merci.
Et moi, je crois qu'il faut résoudre ces choses réelles qui touchent à la population au lieu de résoudre les problèmes de postes ou d'occuper des ministères pour piquer l'argent de l'État au lieu de faire fonctionner l'État.
Bernard Padikouba, nous soutenons la paix et que il y a ces cas de Joseph Kabila face à la justice et que les confessions religieuses aiment amener tout le monde autour d'une table pour qu'il y ait quand même résolution de cette crise politique. Qu'en dites-vous?
Oui, chers confrères, la paix, c'est le souhait à nous tous qui habitons le Congo, le Grand Congo, souhaitons que la paix règne après plus de 3 décennies de guerres, de tueries. Mais il faut là souligner un élément. Quand on est dans la décrispation politique, on ne va pas mettre de côté la justice. Parce que si la justice est mise de côté, on tomberait dans la jungle. Et dans la jungle, on va laisser tout le monde agir selon son bon sens, selon son bon gré. La justice, elle est là pour régler les différends qui opposent non seulement les Congolais, mais tous ceux qui estiment qu'ils peuvent œuvrer sur la voie de la légalité. Comment vous estimez que quelqu'un qui a pris des armes, un Congolais, des surcroît un ancien chef de l'État, qui soutient des mouvements insurrectionnels, vous voulez que la justice croise les bras? Et si la justice s'élève pour les condamner, on va crier qu'on a torpillé le processus de paix. Je ne pense pas. L'Église, le père religieux, peuvent bien entamer leur processus parce qu'ils sont congolais. La loi leur donne ces pouvoirs-là, cette prérogative. Mais aussi longtemps que ces processus ne rencontrent pas l'assentiment de tous les Congolais que nous sommes, je pense que c'est une procédure biaisée. Elle ne pourra pas atteindre, elle ne pourra pas produire ses effets. Kabila, un ancien chef de l'État, s'il était conscient, pourquoi il n'a pas comparu? Pourquoi il n'a pas envoyé sa défense à l'audience? C'est qu'il est conscient que les faits pour lesquels il est reproché sont réels. Il pouvait venir se défendre, se justifier pour qu'on compare les allégations par rapport à sa défense. Moi, je pense qu'on ne peut rien attendre de cette démarche des confessions religieuses aussi longtemps que tous les Congolais n'ont pas été clairement saisis, ne se sont pas exprimés par rapport à cette situation. Tous les Congolais, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait retour de la paix. Ce que l'Église est vers, c'est de revenir peut-être.
Allô Bernard, on vous a perdu.
Ce sont les leaders d'opinion. Ils peuvent ne serait-ce que revenir, peut-être consulter, organiser peut-être des consultations avec des populations, avec les membres de leurs églises, pour qu'ils aient les avis de ces membres-là. Est-ce que réellement les fidèles qui prient dans leurs églises sont d'accord pour les dialogues en ce moment? Ils pouvaient ne serait-ce que revenir.
Allô Bernard?
Écoute ton frère.
On vous a perdu là. La dernière phrase, ça n'a pas été bien écoutée.
Oui, je disais tout à l'heure que ce que les confessions religieuses peuvent faire, parce que ceux qui animent ces confessions sont des leaders, c'est de recourir aux membres de leurs églises, de leur consulter pour recueillir aussi leurs avis. Est-ce qu'ils sont d'accord avec les processus pour lesquels ils se sont engagés?
Martin et Kama, comment faire participer tout le monde à ces processus, à cette démarche des confessions religieuses? Si on prend les cas Kabila, le cas de ceux qui ont pris les armes, les opposants politiques, la population veut la paix, que faire?
Et je dirais que la démarche sur le dialogue inclusif ne peut exclure celle de la justice. Alors, prenons le cas de Joseph Kabila, l'ancien président de notre pays. Son procès, lui, en tant qu'ancien président de la République, devait être exempt de tout reproche. Vous ne pouvez pas empêcher la justice de faire son travail. Elle doit le faire. Et alors?
Et pour ça, vous négociez à Doha?
Non, attendez. La justice congolaise doit faire son travail. C'est la première des solutions et la première voie. Et puis, la seconde, par rapport au dialogue, tous les Congolais, toutes les parties prenantes doivent participer à ce dialogue et c'est impérieux pour le développement de notre pays, pour le recouvrement, je le dis encore, de la paix totale. Alors, opposition armée ou non armée, société civile, régime en place, tout le monde doit être concerné pour le dialogue. Il y a quelques mois passés, le gynécologue Denimko l'a dit, il a même souhaité dans l'une des déclarations qu'il veut une conférence internationale. Et là, dans cette feuille de route, je retrouve l'une des parties importantes. La conférence internationale, promouvoir le bien-être, le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. C'est une démarche déjà amorcée ou évoquée par l'ex-candidat à l'élection présidentielle 2023, Denis
Mukwege. Le prix Nobel
2018, qui aujourd'hui, je vois qu'à travers ces déclarations, même si on dit que ce n'était pas vraiment entendu, mais je le retrouve au moins dans cette feuille de route comme l'une des grandes étapes. Et donc vous voyez que c'est important de passer par la conférence internationale pour permettre à ce que le pays redevienne comme avant, c'est-à-dire dans la paix, avant 93. Et puis vous me posez la question pour savoir si comment faire pour que le pays, la population se retrouve. La population ne peut que se retrouver si déjà au sommet, les choses sont bien établies, c'est-à-dire la bonne gouvernance. La bonne gouvernance doit aussi, lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, on doit aussi voir la capacité des politiques, la capacité de ceux-là qui nous dirigent à pouvoir collaborer avec les parties restantes. Là, c'est important. Et donc, on ne peut exclure l'opposition non armée, on ne peut exclure l'opposition armée ou la société civile, si nous voulons la bonne gouvernance. Et c'est ça la solution qui va faire en sorte qu'on retrouve la paix dans notre pays. Et c'est important. Dire que nous ne voulons pas la paix, comme dit monsieur
Bernard,
je pense que c'est occasionner encore le désordre. C'est occasionner encore la guerre. Or, le dialogue va faire en sorte que toutes les parties soient considérées, émettent son point de vue, afin que, à travers la conférence, bien sûr, à travers la conférence, que toutes les voix sont entendues, afin que nous retrouvions notre paix totale.
Vous êtes pour les dialogues, mais qui doit prendre part à ces dialogues?
Qui doit prendre part à ces dialogues?
Ouais.
Mais je parle de toutes les parties. Je parle de la société civile, je parle des
même
des
avec ceux qui négocient à Doha.
Je dis, toutes les parties doivent être considérées et doivent prendre part à ce dialogue pour le retour total de la paix.
Et dans cette tribune de presse, parlons aussi de la justice, toujours avec la Cour de cassation qui a renvoyé à une date ultérieure le prononcé du verdict tant attendu de ses procès contre l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Constant Moutamba, lui, en tout cas, devrait être fixé définitivement sur son sort. Selon Maître Yves Kisombe, il ne s'agit pas d'un procès ordinaire. On écoute Yves Kisombe au micro de Jeff Coy.
C'est la justice de notre pays qui fait son travail, mais on ne peut pas non plus dire que c'est une affaire totalement ordinaire. Quand on juge un ancien ministre de la justice, quand on juge un homme politique, il y a, ou n'importe quelle autre personnalité publique, il y a un intérêt de l'opinion, il y a beaucoup de suivi de la chose, et donc on ne peut pas considérer que c'est une affaire simplement ordinaire sur le plan social, sur le plan... C'est ça aussi le travail de la justice. Donc nous faisons confiance à la Cour jusqu'au bout. La constitution de notre pays, la justice...
Bernard Padikouba, journaliste au studio Tiondo Tiaï Kassai et rapporteur au sein du collectif de journalistes engagés pour l'émergence de la presse Kananga. Comment est-ce que vous attendez ou vous lisez entre les lignes ce qui pourra être le contenu de ce verdict?
Je pense que, comme l'avocat qui venait de s'exprimer tout à l'heure, le procès de l'ancien ministre Constant Moutamba, c'est vrai, c'est un procès qui est ordinaire. Mais par rapport à ce que le ministre héberge comme qualité et la population qui est derrière lui, on a rendu ce procès extraordinaire. Et comment vous pouvez vous estimer qu'à la veille, le parquet puisse prendre un communiqué, une déclaration, empêchant les gens de porter les effigies, ceux qui soutiennent le ministre Moutamba, aussi longtemps qu'il n'était pas encore condamné, plus porter ça et de ne plus s'approcher tout près des instances judiciaires.
C'était du désordre ici à Kinshasa. Vous avez vu ce que ça a créé?
On a vu, oui, c'était du désordre. Le désordre était créé par le parquet. Parce que vous pouvez seulement voir les intentions en lisant les réquisitoires du ministère public. Vous avez l'intention qu'il y a une forme d'acharnement contre l'ancien ministre de la Justice. C'est ainsi que la population qui le soutenait ou qui continue à le soutenir, notamment les jeunes, se sont levés pour apporter leur soutien au ministre. Comment vous pouvez dire à ces gens-là de ne pas porter les effigies? Vous pouvez leur dire de ne pas s'approcher, de ne pas entrer dans la salle d'audience. Ça, c'est quand même faisable. Mais vous allez plus haut pour interdire ces gens-là de porter et de parler de l'ancien ministre. C'est qu'on comprend qu'il y a une forme de complicité dans cette histoire. Voilà pourquoi, quand la justice a vu que la ferveur populaire dépassait. C'est ainsi qu'ils ont dit de pouvoir renvoyer cette affaire. Moi, je pense que la décision était déjà ou est déjà sur la table des juges. Mais plus ils ont vu la ferveur, ils ont vu la population qui s'est soulevée, ils ont dit bon, parce que la justice n'a pas seulement un rôle de condamner, mais la justice aussi a un rôle d'apaiser la tension au sein de la communauté, au sein de la population. Ça ne vaut pas la peine de rendre une décision qui va enflammer toute la République, mais il faut tamiser, voir tous ces paramètres-là, mais aussi rendre la justice juste, qui est une justice avec une forme de complicité. Ça ne sera pas intéressant. Je crois que le procès Moutamba, c'est un procès qui nous a enseigné beaucoup de choses, parce qu'on l'a suivi du début jusqu'à la fin. On a tous compris que c'est un procès vide. Il n'y a pas des éléments. Tous les témoins, tous les renseignants qui ont été invités vous les avez tous suivis. Nous les avons tous suivis. Est-ce qu'il faut porter des lunettes, des gants pour comprendre qu'il y a une forme de manipulation? Voilà pourquoi la population s'était soulevée. Ce qu'il faut faire, c'est que la justice, les juges puissent être conscients, qu'ils ne puissent pas subir des pressions politiques, qu'ils rendent leur jugement selon les bons sens du droit.
Merci.
Ça serait le plus important. Ils vont apaiser la population. Non seulement, ils ne vont pas plaire la population. Ils rendent, ils fassent leur travail correctement.
Merci. Je considère aussi comme votre conclusion, Monsieur Martin Kama. Je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef du média en ligne Wise.cd ici à Kinshasa. Comment est-ce que vous lisez, vous analysez ce qui se passera si le verdict sera prononcé de ce procès Constant Mutamba?
La ville de Kinshasa a été mouvementée, le pays était mouvementé, et là on assiste, je dirais, à un procès de double tranchant, politique et juridique en même temps. Pourquoi politique? Pourquoi d'abord juridique? Parce que nous savons qu'au fond, il y a un dossier de détournement de 19 millions de dollars destiné à la construction d'une maison carcérale dans la ville de Kisangani, au Congo, dans la province de Tshopo. Mais politique, pourquoi? Parce que on constate que la justice devrait jouer son rôle, mais là, j'ai l'impression que nous ne sommes plus face à une justice qui doit jouer son rôle.
Pourquoi?
Parce que je vois de la manipulation. En fait, elle veut submerger la population dans un profond sommeil.
Qui manipule qui?
Qui manipule qui? C'est important. Mutamba a son camp, la justice, le pays également. Mais ici, si vous constatez bien que le procès, comme l'a dit mon confrère, est totalement vide.
Certains jeunes congolais s'y mêlent dans une affaire de justice. Pourquoi?
Mais c'est parce qu'ils ont d'abord la lecture de ce procès tout premièrement. C'est pas la première fois. Il y a eu tant de procès de la sorte. On tire sur un opposant qui est un adversaire gênant. Là c'est à craindre. Et en plus, Mutamba a été considéré comme un électron libre au sein du gouvernement sortant. C'est parce que il voulait bien amener des choses à bon train, apporter des réformes, et voilà qu'il est victime de ses propres idées, de sa propre idéologie. Je dirais tout simplement que Constant Mutamba est le héros, tout simplement.
Avec ce procès de l'ex-ministre d'État, il risque de ne pas s'en sortir au regard du grief de tentative de détournement. Comment est-ce que vous avez vécu le mercredi Kinshasa? Ça n'a pas été, en tout cas, la ville, la capitale qu'on connaît.
J'ai écrit un article sur ce procès en disant que...
Alain Botoko.
Oui, c'était un procès politico-judiciaire et moi, ça ne m'étonne pas la suite. Mais il y a quelques éléments quand même à donner comme précision, c'est que nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Tous les Congolais souhaitent qu'il y ait une justice et qu'une justice qui fonctionne normalement et pour l'intérêt de tout le monde. Il y a un problème de gouvernance. On n'éduque pas notre peuple. Le peuple n'est pas éduqué. La Constitution, dans son article 70, dit ceci, que nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde connaît la loi. Et dans la loi, c'est le juge qui est le patron, c'est le juge qui dit la justice, c'est pas quelqu'un d'autre. Les gens commentent partout, non, la Cour constitutionnelle dit qu'il y a des illégalités, il y a tout ça. Non, la Cour ne peut pas se prononcer dans un dossier, la Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer dans un dossier qui n'a pas été saisi. Et donc, il faut enseigner à nos populations que seul le juge ont droit de dire la vérité et il n'y a que eux. Mais il n'y a pas que la justice hein, dans un pays. Il y a le bon sens, il y a la logique, il y a l'honnêteté, il y a toutes les valeurs qu'il faut mettre en place.
Et en tant que journaliste, comment est-ce que vous voyez l'avenir des choses dans ces procès?
L'avenir, j'avais écrit quelque part disant que le plus fort pourra emporter et dans ce terrain-là, les politiques semblent être le plus fort. Il faut éviter qu'il y ait notre justice donne l'impression que il y a de l'acharnement, il y a tout ça, qu'ils fassent leur travail comme il se doit et c'est le pays qui gagne et si la justice marche comme il se doit. Voilà un peu ce que je voulais et partager avec les auditeurs.
C'est tout pour la tribune de presse sur Radio Capi. Merci à toute l'équipe de production et réalisation, supervisée par Kéline Couté. À la technique, c'était Jean-Claude Nsiala, de main de maître de Alain Bidoya. Au micro, c'était moi, Freddy Bikumbi, Ignace. Merci de continuer à suivre votre radio au Capi.